Voilà, grec. Donc, la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que cette fois-ci, avec la sortie du bouquin sur l'affaire Lageret, cette fois-ci, enfin, nos médias romands vont enfin réagir et que le gouvernement vaudois va réagir, ou même le gouvernement suisse? Est-ce que tu as un espoir dans ce domaine, vu que tu as subi pas mal de vicissitudes?
Alors, si j'étais historien, je me réfugierais dans le passé pour dire que c'est difficile de prédire l'avenir. Mais là, tout de même, avec d'abord l'affaire Ségala, où on a une personne qui ne peut pas être arrivée au moment du drame, mais ou plutôt environ une heure après. Normalement, on considère ça comme un alibi assez fort. Ici, dans l'affaire Légeret, on a un degré de plus, c'est-à-dire une personne qui ne pouvait pas être sur place au moment où on a déterminé, enfin où l'accusation a déterminé l'heure du crime d'une façon péremptoire,
et empirique.
totalement, aux alentours de midi, le 24 décembre 2005.
Alors Parce que, que. parce qu'en fait, dans l'histoire, c'était le seul moment où François Légeret, qui était à Lausanne, qui a acheté cadeau, je sais pas quoi, n'avait pas d'alibi certifié.
Alors, c'était pas uniquement ça, c'est-à-dire qu'ils avaient une logique qui leur faisait dire là, il est effectivement faible dans son alibi, dans ses alibis. Et puis, en même temps, on n'a plus de téléphone à la villa à partir du 23 décembre dans la soirée. Donc, ces dames, elles ont forcément dû mourir le 24 ou plus tard, au milieu de journée, sinon elles auraient fait des téléphones dans l'après-midi. C'est ce genre de raisonnement. Et quelques autres éléments du même style. Effectivement, quand on a eu un deuxième procès avec l'apparition de la boulangère, d'une boulangère qui avait servi au moins deux et peut-être les trois dames 5 heures après leur mort supposée.
Oui. Ouais. Donc ce 24 décembre.
Le même 24 décembre.
C'est vrai que censé être morte à 14h, enfin,
non, ah, non, mais plutôt vers midi.
Et ouais. Donc vers 17h, ces braves dames se présentent à la boulangerie.
Oui, alors ça c'est un
cas. Et la boulangère, les connaît beaucoup parce qu'elle les connaît.
La boulangère, effectivement, est totalement crédible. Elle est auditionnée par 5 juges. Et ces 5 juges la trouvent si crédible qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin d'autres témoignages pour corroborer ces dires. La défense, à ce moment-là, aurait pu tout de même se dire verrouillons et faisons venir. Parce qu'il y avait d'autres témoins qui pouvaient corroborer le fait que c'était bien le 24 décembre. Ben non, elle s'est trouvée toute seule au tribunal face alors à une attaque en règle qui a visé non pas à élucider ce qui s'était passé, à faire sortir de la vérité, mais à déstabiliser cette témoin.
C'est le procureur général du canton de Vaud, Éric Cottier, qui l'a attaqué comme un fou en disant, mais madame, vous êtes quasiment...
Votre mémoire n'est pas si bonne que ça, vous confondez le 23 et le 24,
ouais.
C'est plutôt alors lui qui confond le 23 et le 24, puisque c'est deux jours assez différents. Le 23 était un jour où madame Albanese ne faisait pas la fermeture, travaillait jusqu'à 17h, et le 23 et le 24, veille de Noël, elle était seule, elle faisait la fermeture à 17h. Effectivement, les deux jours, elle travaillait jusqu'à 17h, mais le 24, elle faisait la fermeture.
La fermeture après.
Et puis ensuite, elle allait, et ça s'est mentionné dans le procès, elle allait souper chez son fils pour la première fois parce que son mari était décédé 3 mois auparavant.
Et dans ton livre, tu as le témoignage du fils.
Alors ça, c'est effectivement, quand j'ai rencontré le fils, je me suis dit, c'est un témoignage que je fais par routine et par circonspection, parce que j'imagine bien que le fils a dû être auditionné et donc il ne sera pas capable de dire s'ils ont eu le réveillon le 23, le 24 ou le 25. Eh ben non, pas du tout. Le fils est absolument certain parce que le réveillon dans leur famille a toujours eu lieu le 24 et il n'a été chercher sa mère qu'une fois pour le réveillon du 24. Il n'a pas été la chercher pour l'avant-réveillon du 23 plus le réveillon du 24.
Ça dit pas. Et puis en plus de ça, donc cette brave boulangère, elle avait félicité, elle avait souhaité bon anniversaire à une de ses collègues qui a été du 24.
La collègue qu'elle remplace, Christine Deria, est du 24 décembre. C'est la raison pour laquelle Madame Albanese, qui ne faisait généralement pas le samedi, a fait la fermeture le samedi 24 décembre pour permettre à son amie de fêter son anniversaire et de fêter le réveillon. Et
donc, puis le téléphone. Donc, résumons simplement, il est absolument impossible que M. François Légeret ait pu éliminer d'une manière ou d'une autre sa mère, l'ami de celle-ci, donc, et sa soeur.
Cinq heures avant qu'elle soit en vie.
Parce qu'elles étaient toutes en vie. Voilà, ouais, bon, ouais, bref. Ouais. Et donc, et tout ça a échappé à la justice.
Ça paraît difficile à croire, effectivement. Moi, malgré tout, on se dit, vraiment, travailler à ce niveau-là sans faire des vérifications de routine, comme je disais, et pour une condamnation à perpétuité. Hein. Et une perpétuité qui, attention, là, n'est pas simplement 15 ans plus libération conditionnelle après non. Puisque François Légeret est considéré comme meurtrier en série. Ouais. Et ça, le juge Pellet l'a déclaré justement dans l'ouvrage de mon confrère Michel Bory en 2010, publié en 2010. Il a dit non, il ne sortira jamais à moins qu'il ne s'amende et reconnaisse ses crimes.
Voilà.
Parce que sinon, il est trop dangereux.
Et donc, M. Bory, qui a écrit un bouquin à charge contre François Légeret, avec l'aide de la police, avec qui il est très ami, etc., et de la justice vaudoise, finit son bouquin par une espèce de narangue à François Légeret en disant « avouez, monsieur, car comme ça, au moins, vous serez pardonné. » Enfin, bref, un truc
incroyable. Alors, il y a cru lui-même, et jusqu'à un certain point, on peut imaginer que les policiers et le procureur général y ont cru, mais jusqu'à un certain point seulement. Au deuxième procès, ça ne paraît pas possible.
Monsieur Secrétan, Jacques,
lui-même,
franchement, est-ce que tu penses une seule seconde que le procureur général Éric Cottier, que les juges Colleloup, Pellet et autres qui ont eu à avoir à traiter cette affaire aient pu simplement se tromper?
Alors, je ne suis pas dans leur esprit, dans leur cerveau. Il y a des éléments d'influence qui parfois nous surprennent et nous font voir les choses d'une manière complètement absurde. Ça nous arrive à tous. Mais quand c'est des juges et un procureur, moi je suis vraiment tombé par terre quand j'ai lu le résumé, disons un texte même des juges de la Cour de cassation qui disent on ne peut pas faire la différence entre le 23 et le 24 décembre. Donc, dans le doute, c'est vraisemblable que ça s'est passé le 23 décembre.
D'accord.
Donc, c'est pour moi, c'est simplement blanc égale noir. On ne peut pas faire la différence entre la couleur blanche et la couleur noire.
Mais si je parle, parce que j'ai aussi pas mal étudié l'histoire, de véritables complots de la justice vaudoise de la part de Cottier et de tous les autres juges, qui, pour une raison très précise, qui était de permettre au véritable auteur des actes qui sont produits ce jour-là, de rester en liberté, etc., puis à la fin de gagner 40 millions, parce que c'est le véritable final, bon bref, est-ce que je me trompe?
Alors, c'est une hypothèse que je ne peux pas me risquer à élever. Pour quelle raison? Sur place, on n'a aucune trace d'une tierce personne, mis à part, les trois victimes, les deux dames victimes certaines, et la troisième victime, qui est peut-être encore en vie, Marie-Josée Légeret, la doctoresse. On n'a aucune trace qui ne soit pas de ces trois personnes, à part les deux micro-traces ADN de François Légeret. François est un habitué de la maison et ses traces pouvant s'expliquer d'une autre manière que par sa présence le jour même.
D'accord. Il y a deux traces de sang qui sont marquées sur les vêtements que portait l'ami de Ruth Légeret, c'est-à-dire Marina. Un dans le dos, un fer soulevé,
uniquement l'ADN de Marina. Et le problème, c'est que la trace du soulier, ça, on ne sait pas. Le juge d'instruction Chaton a émis l'hypothèse que pouvait être ou un pompier ou un policier qui aurait marché, parce que c'est vrai que c'était exigu. Et puis, quel soulier portait Marie-Josée Légeret, on n'en sait rien. C'est vrai que
d'accord,
c'est.
Mais des traces de sang qui apparaissent sur une scène de crime, donc du sang frais.
Oui, oui.
Quand on découvre un crime, une dizaine, une quinzaine de jours, on ne sait pas. Bon, après, donc, si c'est les pompiers ou les flics qui sont arrivés là, qui ont marché sur les pauvres victimes.
Ça veut dire que le décès aurait eu lieu très peu de temps avant leur
quelques leur heures avant, ouais. ou alors ces traces. Est-ce qu'elles ont été.
Ça pourrait
l'ADN
avoir...
de ces traces oui. a été.
Mais bien sûr, alors, c'est là le problème. L'ADN, c'est uniquement l'ADN de Marina Studer. C'est uniquement l'ADN de la victime. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de. Qu'il n'est pas impossible qu'il y ait eu un autre ADN qui a été absorbé par le sang de Marina Studer, mais on n'en a pas détecté d'autres. Et effectivement, on n'a détecté aucune trace ADN ou cheveux ou salive ou résidu quelconque dans tout l'étage qu'habitait Marina Studer, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. On a plus de 20 traces de sang qui sont uniquement d'elle.
D'accord.
Donc on n'a que son ADN. Et ça, c'est tout de même, pour pouvoir accuser quelqu'un d'autre, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Il y a eu ces deux micro-traces de François à l'intérieur des ciseaux. Ouais.
Sur l'intérieur d'un col
d'un col de chemise de nuit, ouais. Qui effectivement peuvent dater de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années.
C'est ce qu'on appelle une preuve qui n'est pas probante.
Absolument pas. Bon. Pour quelqu'un qui était un habitué des lieux.
Alors maintenant, qu'est-ce que tu penses du fait que le frère qui a été déshérité par sa mère Ruth Légeret n'a jamais été suspecté au-delà d'un petit interrogatoire de base, dans lequel d'ailleurs il a raconté que sa femme avait des rêves, qui conduisaient à François Légeret. Bon, bref, que ses traces ADN à lui n'ont jamais été relevées.
Alors, le frère, effectivement, il raconte une histoire qui ressemble à l'histoire présentée par la police et l'accusation, qui n'est probablement pas. Proche de la réalité. Hein, je reprends la réponse. Le frère raconte une histoire qui lui vient probablement de ses contacts avec la police et l'accusation. Il n'y a aucune trace de lui qui a été détectée sur place. Mais c'est vrai qu'on n'a pas prélevé son ADN, on n'a pas prélevé ses empreintes digitales, ni pris sa photo, parce que ça a été considéré comme trop intrusif. C'est-à-dire la certitude, et l'état de fait qui est mentionné dans mon livre également, c'est qu'effectivement, on n'a pas traité les suspects potentiels de la même manière.
Alors qu'on sait tous que dans une enquête, la première chose, c'est qu'on fait des cercles, et on va voir dans tout les directions à partir de la victime, qui avait des connaissances, des contacts, etc. Et donc, le frère, qui s'appelle Jean-Marc Légeret,
tout à fait,
devait au moins être investigué autant que tous les autres.
Mais manifestement, si on avait relevé son ADN et ses empreintes, bon, sur les empreintes, il y a un petit doute, parce qu'il y a des empreintes qui ont été non identifiées, ouais. Des empreintes digitales. L'ADN, il n'y a aucune trace qui a été non identifiée. Il y a des traces qui ont été inidentifiables, trop peu d'ADN, et les autres traces ont toutes correspondu aux victimes. Donc, ça ne l'aurait pas impliqué davantage dans un possible crime. Par contre, alors, là où un reproche peut être fait à l'accusation et à la police, c'est le fait d'avoir passé outre l'éventualité d'un accident. Et ça, c'est sur la base uniquement de la déclaration du médecin légiste responsable, le docteur Patrice Mongin, qui a estimé pouvoir écarter l'éventualité d'un accident. Et il s'est, en cela, lui-même distancié des deux autopsies, des deux autopsies faites sur les deux octogénaires décédés par des personnes qui sont en rang au-dessous de lui, mais par contre, ils sont des praticiens compétents et qui ont fait des autopsies complètes dans lesquelles il conclut que c'est ou des chocs contre ou des chocs de. C'est-à-dire, on écarte absolument pas l'accident.
Tout à fait. Voilà. D'accord. Mais alors, question à propos de M. Patrice Mongin, qui vient de prendre sa retraite, qui a été nommé chef de toutes les polices, enfin de toute la police scientifique.
La médecine légale.
La médecine légale pour la Suisse romande. Ce gars-là, dans l'affaire Légeret, dans l'affaire Ségala, dans l'affaire du petit Lucas en Valais, chaque fois, il a rendu des conclusions techniques qui allait dans le sens de ceux qui avaient le pouvoir. Bon, bref.
Dans le sens de l'accusation.
Dans le sens de l'accusation.
Ça donne l'impression qu'il a utilisé des éléments de l'enquête de police pour aboutir à sa propre conviction qu'il aurait dû tirer de ses examens, de l'examen des autopsies. Mais pour le faire, il aurait fallu qu'il fût compétent dans l'examen des autopsies. Or, lui-même n'en avait plus pratiqué à titre personnel depuis plus de 10 ans. Donc, ça, c'est tout de même. C'était pas la personne qui devait s'exprimer au tribunal. Il répond au tribunal et il n'est pas compétent.
Bon, je te repose une dernière question. Ouais, ouais. Ça, pour cette affaire, c'est galère que pour cette affaire. Est-ce que tu as l'impression, oui ou non, que dans la justice vaudoise, et peut-être même ailleurs, Valais, etc., mais surtout dans la justice vaudoise...
Je n'ai pas travaillé dans d'autres domaines que la justice vaudoise pour la Suisse, hein, donc voilà.
Il se trouve que les systèmes judiciaires, soit de police, de machin, sont gangrénés par une série de personnes qui ont des intérêts qui n'ont rien à voir avec la recherche de la vraie justice et de la vraie vérité.
Donc dans l'affaire Légeret, qui est antérieure de fin 2005, que dans l'affaire Ségala, qui date de début 2010, c'est assez sidérant, lorsqu'on examine ces affaires, de voir à quel point les personnes compétentes ont été écartées comme étant des gêneurs, et pour aboutir à la conclusion qui était en fait le présupposé de culpabilité sur l'unique suspect présenté dès le début de l'enquête. Un suspect qui, dans un cas comme dans l'autre, n'a jamais avoué et n'avouera jamais.
Je ne te demanderai pas d'autre chose parce que je crois qu'on est d'accord.